Bienvenue sur le Déclic, le podcast sur la quête de sens au travail. Aujourd'hui, derrière le micro du Déclic, on va parler de bullshit jobs, ou autrement dit de jobs à la con, de reconversion et de quête de sens. Pour ce faire, nous recevons Anna Couton, autrice du livre « Dites non à une voie toute tracée », le marathon de la reconversion, sorti aux éditions Kiwi cette année 2020. Après 5 années dans le marketing et après avoir varié entre différents postes sans y trouver un réel intérêt ou sens, il y a 2 ans, Anna prend la décision de se reconvertir et de demander une rupture conventionnelle auprès de son employeur. Elle se lance ensuite dans le chemin, ou devrait-on dire marathon, de la reconversion à la recherche de ce qu'elle veut vraiment faire, en accord avec ce qu'elle aime et ses valeurs. Elle raconte ce long parcours dans son livre que je vous recommande particulièrement. On revient dans cet épisode avec Anna sur les points saillants de cette reconversion en parlant du mythe du déclic pour trouver sa voie, ce fameux déclic que l'on attend impatiemment comme s'il tombait du ciel et qui pourtant n'est pas le cas pour tout le monde. On discutera également des peurs qui englobent n'importe quelle reconversion, comme le simple fait de sauter le pas et de quitter son CDI ou CDD, ou encore du regard des autres par rapport à cette nouvelle situation. Anna nous donne les clés qui l'ont aidée et qui sauront certainement répondre aux nombreuses interrogations que l'on se pose lorsqu'on entreprend ce long marathon qu'est une reconversion. Vous êtes sur le Déclic et je vous souhaite une bonne écoute. De participer au podcast Le Déclic.
Bonjour Océane, merci de m'accueillir, je suis ravie.
Ok, alors Anna, on va quand même te présenter succinctement. Donc tu as 30 ans et on va dire qu'aujourd'hui tu vas témoigner de ton parcours de reconversion. Quoi, en fait, j'ai voulu que tu interviennes aujourd'hui, c'est parce que tu as écrit un livre. Donc tu viens nous parler de ton livre que tu as publié en juillet 2019 aux éditions Kiwi qui s'intitule Dites non à une voie toute tracée, dans lequel tu retraces en fait tout ton parcours de reconversion, parcours qui n'est pas tout à fait facile, comme on pourrait le croire ou pas. Avant toute chose, avant qu'on parle des déclics ou pas que tu as pris pour te reconvertir, est-ce que tu peux me dire quel métier tu voulais faire quand tu étais petite ?
Eh ben, je m'en souviens pas. Donc c'est assez.
Mais c'est pas grave.
Mais je ne m'en souviens pas. Je sais qu'à un moment je voulais être maîtresse d'école. Il y a même, je crois, un jour j'ai voulu être commissaire de police et un jour avocate. Ça s'arrête là, quoi. Je sais pas exactement. J'avais pas. Tu sais, des fois il y en a qui ont l'idée vraiment précise. Clairement, en fait, voilà, moi j'avais ces idées-là, mais je crois que je ne les ai pas vraiment menées à bien et je n'ai pas forcément réfléchi à ce que je voulais faire plus tard.
Ouais, c'était flou. Mais il n'y a pas de réponse à donner exacte. je pense que tu n'es pas la seule à. Voilà, c'est toujours abstrait. Et on va succinctement dire à peu près ce que tu as fait avant d'avoir ce changement de vie que tu as opéré depuis que tu as 28 ans. Donc ça va faire 2 ans que
Ça fait 2 ans, oui.
Ça fait 2 ans, oui, parce que c'était en septembre, il me semble.
C'était en septembre 2018 que j'ai commencé ma nouvelle vie.
Et avant ça, donc, du coup, tu étais...
Alors avant ça, j'ai été chargée de marketing pendant 5 ans. En fait, je n'ai pas été avocate, maîtresse d'école, ni commissaire de police, mais j'étais plutôt bonne élève et donc mes profs à l'école m'avaient dit fais une classe prépa. Bon, moi je t'avoue que je savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie, donc ok, je suis partie en classe prépa. Bon, accessoirement, j'ai quand même loupé tous les concours, donc c'est la vie qui fait ça, mais c'était une belle leçon d'humilité. Non, mais je le dis parce que j'ai pas fait d'école de commerce du coup, mais je suis partie à la fac en éco, parce que j'avais découvert l'éco en prépa, et quand j'ai fait une fac d'éco, j'ai découvert le marketing, je trouvais ça sympa, je fais un master en marketing sans me poser vraiment de questions, et donc diplômée en 2013, donc en 5 ans j'ai travaillé dans 5 entreprises différentes. Donc avec ça montre que quand même il y avait peut-être un petit truc à comprendre et donc en fait je travaillais dans des grosses structures bancaires notamment en tant que chargée marketing, donc en fait je m'ennuyais beaucoup parce qu'en gros mes journées c'était consistait à écrire des courriers, des emails pour des clients qui n'allaient pas les lire. Enfin, je sais pas si toi tu lis tes courriers et tes emails que la banque t'envoie. Moi, même pas moi, je les lis. Hein, donc, je pense que toi non plus. Non, mais voilà, il faut être honnête.
Si mon banquier m'entend, non, je ne lis pas ses mails.
Il faut être honnête. C'est quelque chose qui avait vraiment pas grand intérêt. Et donc, je pensais que le problème venait du secteur bancaire. Donc, je suis partie dans le sport. Mais en fait, alors bon, je faisais des courriers, des emails et puis des tableaux Excel et des présentations PowerPoint à la banque. Et les présentations PowerPoint et les tableaux Excel, ils sont revenus quand j'étais dans le sport. Hein, donc, au bout de 10 mois, alors que j'étais en CDI, en fait, j'ai compris que je ne pouvais pas y rester, quoi.
Et on va revenir. Est-ce que tu peux dire... Moi, je sais que tu as parlé des bullshit jobs dans ton livre. Donc, est-ce que tu peux dire, est-ce que c'était le genre de job que tu avais
Pour moi, globalement, à la banque, oui. Honnêtement, je ne comprends pas. Il y a des tonnes de bullshit jobs, notamment dans ce genre de grosses structures. Donc, je ne sais pas si nos auditeurs savent ce que c'est les bullshit jobs. Mais donc, du coup, je le précise au cas où. C'est donc l'anthropologue David Graeber qui nous a quittés cette année. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle Bullshit Job, qui a fait énormément d'interviews de personnes, en fait, de personnes qui travaillaient. Et il a dégagé la théorie donc, des bullshit jobs selon laquelle les personnes... si le métier n'existait pas, ça changerait rien, quoi. Un bullshit job, c'est aussi un métier qu'on est incapable d'expliquer à sa grand-mère. Ou en gros, qu'on est même incapable d'expliquer tout court, quoi. Tu vois, c'est que moi... qui sert pas si tu n'étais pas là... l'entreprise elle continuera à vivre, quoi.
Mais et du coup, voilà. si je peux citer quelque chose qui m'avait fait rire. Pour vous donner une idée de mes journées type se déroulaient ainsi: PowerPoint, réflexion sur la taille de la police du courrier en 11 ou 12, réflexion sur la couleur du bleu de la première lettre du titre, bleu saphir ou bleu acier, cours de CrossFit, PowerPoint, réunion tableau Excel, nouvelle réflexion sur la taille de la police, finalement 11h30 sera mieux.
Mais clairement, enfin, il y avait aucun, enfin, je ne trouvais aucun intérêt à ce genre de journée, quoi. Et alors, en fait, quand je suis allée dans le sport, je faisais beaucoup de tableaux Excel, je faisais beaucoup de PowerPoint. Enfin, au bout d'un moment, il y en avait quand même certains qui étaient un peu du bullshit. Et puis, ce qui s'est aussi passé quand je suis partie dans le sport, c'est que la fiche de poste n'a pas non plus correspondu à ce que je faisais vraiment. Et en fait, j'étais pas... ça aurait dû être un ingénieur à ma place parce que on était sur un aspect parfois technique que, clairement, moi, je maîtrisais pas. Et voilà. Mais au-delà de ça, je ne supportais plus d'être enfermée mes journées devant un écran avec quasi 3 heures par jour de transport à faire quand même des tableaux Excel et des trucs qui servaient à rien, quoi. Voilà.
Oui, parce que même si tu avais changé de secteur, parce que des fois on peut dire que le job peut avoir un sens selon la boîte ou la compagnie pour laquelle on travaille, on se dit bon, voilà, je fais ça pour je sais pas, sauver les pandas ou sauver des enfants ou aider quelque chose localement, mais tu trouvais pas ce sens-là non plus, peu importe l'industrie.
C'est vrai que non, j'avais un peu du mal à trouver le sens puis j'en avais assez de me lever tous les matins pour... Enfin, si tu veux, il y avait aussi la sensation quand même que le temps m'échappait, quoi.
Ouais.
Tu vois. Et après, on pourra en reparler quand on parle du déclic, mais...
Bah justement, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, tu parles plusieurs fois dans ton livre de déclic, et tu as eu ton déclic en regardant par la fenêtre.
Oui, donc en fait, le déclic, qu'on s'entende bien, le déclic, c'est moi en tout cas, ça a été mon déclic pour me dire maintenant ta vie professionnelle, en tout cas telle qu'elle est aujourd'hui, c'est fini, quoi. Faut passer à autre chose. c'est pas le déclic de je me lève un matin et je sais ce que je veux faire de ma vie. Donc ça, on pourra en reparler après. Je sais que c'est prévu. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que donc un jour, avec mon énième PowerPoint tableau Excel, j'en pouvais plus. Donc je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai regardé par la fenêtre. Et il y avait le square, il y avait un square en fait. Et il y avait donc un square en face de mon bureau qui avait fleuri. Alors ça peut paraître surprenant pour les auditeurs quand je raconte ça comme ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, donc on était en mai, et j'ai compris que je ne l'avais pas vu fleurir. Et dans ma tête, il y a eu un déclic. Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé en me disant, mais tu n'as même pas vu le square fleurir. Tu ne vois même plus tes journées. Le temps il s'écoule et toi ta vie elle t'ennuie et ce temps il tu peux pas le rattraper quoi. Et donc en fait ça a plus été le déclic de me dire maintenant c'est stop, maintenant j'arrête de m'ennuyer dans mon boulot, surtout que je commençais quand même un petit peu à en perdre l'appétit et le sommeil. Donc il y avait quand même des petits signes que ça allait pas, en tout cas la nature m'a fait réaliser, ouais, m'a rappelé la réalité que la vie elle continue sans nous attendre quoi, et que si toi tu t'arrêtes sur le bord, la vie elle continue quoi. Donc moi en tout cas j'avais l'impression en fait d'être prisonnière d'une situation confortable mais qui ne l'était pas, sauf que ce que j'avais oublié c'est que c'est moi qui détenais la clé de cette prison. Donc en fait ce déclic, ce square et ces quelques arbres m'ont rappelé que je pouvais agir sur ma vie.
C'était en mai, mais est-ce que en dehors de la nature, est-ce que tu penses pas qu'autour de toi il y a des personnes ou des choses que tu as vues qui t'ont inspiré à changer de vie professionnelle, ou c'est vraiment une impulsion que tu as eue?
Disons qu'en fait, je me sentais pas très bien dans mon boulot, donc je voulais partir pour prendre un autre boulot. Sauf que, comme tout à l'heure on en parlait, en 5 ans, j'ai travaillé dans 5 entreprises différentes. Et le même scénario se répétait. Et quand j'ai voulu chercher ce sixième job... Ouais. J'ai compris que si je continuais comme ça à ne rien changer, je pouvais continuer la liste des entreprises à l'infini, en fait. Donc, si tu veux, je commençais un petit peu à chercher ailleurs, mais en même temps, j'étais pas satisfaite de ça. Je me disais, non, mais peut-être qu'en fait, la solution, c'est pas ce sixième job. Et à peu près, alors concomitamment, quand j'ai vu le square, je commençais à tomber sur des vidéos YouTube ou des newsletters ou des groupes Facebook de personnes qui se reconvertissaient. Donc moi je crois un petit peu au mystère de la vie et je pense que des fois la vie elle t'envoie des messages. Elle t'envoie des signes on va dire que tout ça, ça s'est passé à peu près au même moment et que la nature, ça a plus été là en me disant, maintenant, t'arrêtes les excuses et puis tu vas changer, tu vas vraiment changer de vie, quoi.
Et quand tu as eu cette prise de conscience, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu savais que tu devais partir?
Oui. En fait, au fond de moi, je me suis dit, maintenant tu vas partir. Tu sais pas ce que tu veux faire plus tard. Tu sais pas ce que tu veux. Tu sais que tu veux te reconvertir. Tu sais que tu veux plus te faire de marketing. Mais clairement, je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais au fond de moi, il y avait ma petite voix qui me disait, maintenant, tu t'en vas. Et c'est pas grave si tu sais pas ce que tu vas faire. C'est pas grave. Mais là, tu peux plus rester dans cette situation à te rendre malade pour aller bosser, à t'ennuyer, à mourir. T'es trop jeune pour gâcher ta vie, quoi.
Tu as pris ton courage pour demander une rupture conventionnelle. Bon, ça, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais du coup, tu es partie à la recherche de ta voix. ou de tes voix, au final, parce qu'il y a plusieurs chemins, que t'en as pris un, puis d'autres. Au fur et à mesure du livre, on se rend compte que, c'est pas une ligne droite. Et tu le dis même assez bien, je vais encore te citer, je ne sais pas si je vais faire que ça, mais...
Vas-y.
Il faut savoir que dans ce livre, alors je ne sais pas si nos auditeurs et auditrices sont aussi fervents, autant fervents que toi, que du running, ou s'ils ont couru des semis ou des marathons, encore mieux. Mais tu t'es préparée à ton premier marathon en même temps que cette reconversion. Et du coup, il y a une espèce de... de parallèle entre ces deux, oui. ces deux, on va dire, voies d'arrivée.
Ouais.
De course, oui, parce que c'est une course, la reconversion, je pense.
Tout à fait.
Et du coup, il y a une belle phrase qui dit « J'ai accepté que c'était le chemin et qu'il était loin d'avoir le tracé parfait de l'autoroute que j'avais imaginé et qu'il avait le droit de prendre de grands virages. » Donc c'est assez intéressant de voir tout ce que tu as mis en place dans ce livre pour essayer de trouver cette voie et que justement à un moment tu dis il y a cette quête, ce mythe du déclic qu'on peut avoir oui. sur je sais ce que je veux faire. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur les croyances que tu avais à l'époque quand tu t'es reconvertie, quand tu fais le choix, au début de ce chemin, comment c'était dans ta tête?
dans ma tête, c'était moi je croyais qu'un matin on allait alors soit on allait toquer à ma porte ou qu'un matin je me lèverais en me disant Anna, c'est ça ta voix quoi. C'est comme j'ai couru mon marathon et quand je l'ai terminé. Je pensais qu'il y avait une pancarte qui m'attendrait au bout en disant « Anna, c'est ça ta voix, tu dois faire ça ». Bon, en fait, pas du tout, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un mythe autour de « Ah, ça y est, c'est ça que je dois faire ». Alors, il y a des gens pour qui je suis persuadée que ça arrive. Mais il y a des gens comme moi où ça n'est pas arrivé. Je suis même partie à Bali en vacances et en pensant qu'il y aurait le mythe du déclic. En plus, il y a Mange Priem, enfin, il y a plein de bouquins qui se passent là-bas. Laurent Gounel qui voulait être heureux.
Ouais.
Et en fait, ce déclic, il est juste jamais arrivé, même si j'ai compris d'autres choses. Mais c'est vrai que je pense que si tu cherches trop, déjà, tu trouves pas. Parce que tu mets une telle énergie sur le but que tu ne vois plus ce qui t'entoure,
ouais.
tout ce qu'il y a autour de toi. Donc en fait, je dirais que il n'y a pas besoin d'attendre un déclic. En fait, c'est tout le chemin que tu fais qui te permet d'être la personne que tu deviens et qui te permet de construire ta nouvelle identité finalement.
Ouais.
Donc moi, j'ai trouvé mes réponses par l'écriture. Mais avant de trouver ces réponses-là, il a fallu que je chemine beaucoup. Donc je pense que l'idée, c'est pas de s'attendre à demain, je me réveille et je saurai ce que je veux faire.
Non.
Parce que si t'as clairement aucune idée, enfin, ce qui était mon cas, moi je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire quand j'ai négocié ma rupture conventionnelle, c'était pas un mois après que j'allais me lever en me disant je sais quoi. Donc je pense qu'il faut pas attendre en tout cas faut pas mettre des espoirs énormes dans ce fameux déclic mais qu'il faut plutôt faire le premier pas. Alors quand je dis faire le premier pas, moi j'aime beaucoup le proverbe de Lao Tzu qui dit un voyage de milieu a commencé par un pas. Et je pense vraiment qu'à partir du moment où déjà tu fais le premier pas dans ta reconversion ou quand tu fais le premier pas dans un quelconque projet, la vie elle t'aide à faire les suivants, enfin en tout cas il y a les opportunités qui s'ouvrent pour t'aider à faire la suite. Donc finalement n'attendez pas ce fameux déclic. Si vous l'avez, c'est super parce que peut-être qu'au fond de vous, vous connaissez tout le métier que vous voulez faire quand vous étiez petit.
Oui.
Parce que ça arrive aussi qu'on ait refoulé ce métier-là. Et alors là, moi, je vous invite vraiment à vous écouter. Si vous savez depuis toujours que vous devez être comédien, tentez-le, quoi. Franchement, non, mais oui. Enfin, voilà, quoi, par exemple. Et je pense que par contre il faut pas attendre le burn-out ou des problèmes graves de santé pour se dire j'entame une reconversion. Voilà, il y a d'autres moyens qui existent si on n'arrive pas à négocier une rupture conventionnelle. Je sais pas si tu voudras qu'on l'aborde oui. après, faut pas attendre que le corps n'en puisse plus. En tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'on peut démarrer un peu le processus avant. Et voilà, donc le fameux déclic. Écoute, moi, il y a toujours personne qui est venu sonner à ma porte, mais j'ai compris en fait que j'avais les réponses parce que j'ai cheminé quoi.
Et justement, voilà. Ce chemin, on va en parler un peu brièvement. Oui. Dans le oui. livre, on voit vraiment toutes les expériences que tu fais. Je pense que si les lecteurs, les auditeurs, futurs lecteurs, espérons-le,
oui.
feuillettent, ils vont vite se rendre compte que voilà, tu es passé vraiment, tu as osé passer de nombreuses portes diverses et variées pour essayer de te trouver. faire ton introspection d'une façon ou d'une autre. Et oui. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a énormément de choses que tu as mis en place pour toi-même. Et c'est là, enfin, on se rend compte que voilà, t'as pas du tout dû t'ennuyer pendant 8 mois.
Je te confirme.
Si tu pouvais un peu décrire les étapes de la reconversion de façon grossière, comment dans ta tête ça s'est... quelles ont été les grandes étapes pour essayer de justement te trouver un peu plus, de répondre à cette question que le déclic n'avait pas.
Donc en fait, je pense que si on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, c'est intéressant de commencer par une introspection. Quand est-ce qu'on a appris à apprendre à se connaître ? Bon, ça fait beaucoup de apprendre dans ma phrase, mais est-ce qu'un jour on a appris à se connaître finalement ? Est-ce qu'un jour dans notre scolarité, on nous a invités à nous demander qui on était ? Et je pense qu'en fait, si tu veux savoir ce que tu veux faire, c'est de prendre du temps avec toi-même, avec ton petit carnet de la reconversion, j'aime bien appeler ça, mais bon, avec ton petit cahier, parce que je pense que c'est important de noter, et de te demander si tout était possible, qu'est-ce que tu ferais ? Si tu n'avais pas peur, si tu n'avais aucune contrainte financière, si tu avais déjà, si tu avais gagné au loto, qu'est-ce que tu ferais de tes journées ? Et de réfléchir en fait à ce que tu aimes profondément faire, à quels sont tes talents. Solliciter aussi l'entourage, parce que l'entourage, des fois, il voit mieux que nous, il perçoit en tout cas mieux que nous nos talents. Mais pour moi, la première étape clé, c'est vraiment l'introspection. Parce que ça va vraiment te permettre de dégager des axes, en fait, des axes pour avancer par la suite. Donc moi, en fait, suite à la reconversion, il y avait l'écologie, la parole et l'écriture. L'écologie, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, l'écriture et la parole aussi. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est qu'une fois que tu as trouvé, que tu as fait ressortir ce qui émergeait de cette introspection, c'est d'aller se renseigner, d'aller creuser le sujet, en fait. Donc, je sais pas, je vais donner un exemple, comme ça, les auditeurs le savent. Bon, moi, j'avais compris que l'écologie, c'était important pour moi. J'ai décidé de faire une formation. Par exemple, si vous avez une passion pour la couture, renseignez-vous, discutez avec des personnes qui vivent de leur création, intégrez des groupes Facebook. Alors, en présentiel aujourd'hui avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais quand ça reprendra en tout cas, aller à des événements sur la couture. Enfin bon, là, je suis restée dans la couture, mais bon, voilà, je peux choisir n'importe quel autre sujet. Mais l'idée, c'est de creuser le sujet, en fait, de voir si ça nous intéresserait, si ça fait écho avec nous. Moi, par exemple, donc, j'ai fait cette formation en écologie. J'ai essayé de monter une communauté dans l'écologie, mais franchement, ça ne me plaisait pas du tout. Voilà, je ne me sentais pas alignée. Bon, ok, c'est pas grave. La parole, bon, je savais pas trop quoi en faire. Et puis l'écriture, un jour, j'ai commencé à écrire ma décision, en fait. Juste ma décision de reconversion et l'épisode du square. Bon, voilà. Enfin, je me suis aperçue que ça me faisait du bien. Donc, mais bon, c'était un peu le début. Et donc, pour revenir à ta question, donc, introspection, j'identifie les axes. Et ensuite, je creuse les sujets et je tente. Et je passe à l'action. Parce qu'il y a un moment, c'est super de réfléchir. Mais si tu ne passes jamais à l'action, il n'y a rien qui va se taire, quoi. Tu vois, il faut commencer par faire ce premier pas du voyage, quoi. Votre passion, c'est la couture ou la cuisine, pourquoi pas lancer son compte Instagram ou faire des vidéos YouTube, enfin, j'en sais rien, mais enfin...
Tester.
En tout cas, tester l'idée.
Expérimenter, ouais.
Il faut tester, en fait. Ouais, il faut tester, expérimenter. Après, on peut toujours corriger, ajuster, mais si on teste pas, on sait pas, en fait. Et moi, l'écriture, je l'ai aussi testée via des ateliers d'écriture. Et là, je me suis vraiment aperçue que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait énormément. Mais avant ça, j'ai testé d'autres trucs qui ne m'allaient pas. Donc, je pense que, en gros, à retenir pour nos auditeurs, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est vraiment... Je prends du temps avec moi-même pour réfléchir à ce que je veux vraiment, mais vraiment
que tu
faire
aimes,
de ma vie. Quand je dis vraiment...
Parce que dans le livre, tu disais que tu avais du mal à savoir ce que tu aimais.
Oui, j'avais du mal à savoir ce qui me faisait rêver. En fait, quand je dis Il y a deux choses. Quand je dis ce que tu veux vraiment faire de ta vie, c'est déjà, quand je dis le vraiment, c'est pas les autres, c'est pas la société qui te dit, c'est toi, qu'est-ce que tu veux. Si toi, ton rêve, c'est d'être comédien, ben, essaye en fait. Et peu importe si la société te dit que c'est pas possible, moi, il y a plein de personnes qui m'ont dit, non, mais c'est impossible de trouver un éditeur. Ben, en fait, je l'ai trouvé.
Oui. Voilà.
Tu vois, non, mais fin, c'est ça. Il y a un moment, si tu tentes pas,
tu sais pas.
Ben, tu sais pas. Et si c'est ton désir au fond de toi, écoute-le, quoi. Laisse-lui une chance de vivre. Ne regrette pas sur ton lit de mort de pas avoir essayé. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et après, quand ta question sur ce que tu aimes, bah, en fait, pour moi, il y a quand même un lien parce que ce que tu veux vraiment faire de ta vie, du coup, tu vas le trouver aussi par ce que tu aimes faire. Et d'ailleurs, enfin, un petit truc, c'est pour savoir un peu ce qu'on aime faire. Quand t'as rien à faire entre guillemets, qu'est-ce que tu vas faire naturellement? Est-ce que peut-être que naturellement tu vas cuisiner? Est-ce que tu vois? Ou est-ce que par exemple, quels sont les livres que tu as chez toi? Quels sont les livres que tu as chez toi? Je sais pas, peut-être que chez toi t'as que des livres de cuisine ou t'as que des livres sur
coaching, je sais pas, moi,
le coaching, enfin, tu vois, chacun son truc. Mais en tout cas, c'est d'identifier quand même ses centres d'intérêt pour savoir. En quoi déjà ils te nourrissent, est-ce que tu veux qu'ils composent ta vie, donc introspection et puis je teste et je passe à l'action, quoi.
Et on verra ensuite par où ça t'a mené, mais avant ça on va parler un peu de, tu parlais de la vision des autres, est-ce que c'est comme ça qu'on appelle, on peut dire ça, le regard des autres. On va parler des peurs ou des croyances limitantes qui peuvent être variées en fait quand on fait une reconversion. Et la première que j'aimerais du coup qu'on parle, c'est justement, c'est la première chose que tu fais dans laquelle tu as un peu affronté ta peur, c'est cette rupture conventionnelle, j'imagine, parce que c'est quand même un moment charnier, un moment crucial, en fait, où tu quittais un CDI pour te lancer dans une voie et tu ne savais pas dans quoi tu allais te lancer. Alors, déjà, avant ça, avant que tu fasses cette étape, est-ce que tu en avais parlé à tes proches? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit, proches, famille comme amis? Est-ce qu'il y a eu des « Oh, mais t'es folle, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu quittes un CDI? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ?» ou au contraire, beaucoup d'encouragement et du soutien.
Donc en fait, il y a toujours des gens qui te diront qu'il faut être fou pour quitter un CDI. Il y a toujours des gens qui te diront qu'il faut être fou pour faire ce que tu fais. Et on en parlera tout à l'heure dans le regard des autres. Si tu veux, pendant ma reconversion, comment il a évolué. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand les autres te disent « Ah, mais t'es folle de faire ci, t'es folle de faire ça », c'est qu'en fait, ils s'imaginent à ta place et eux, ils auraient très, très, très peur s'ils étaient à ta place. Donc, il faut juste se rappeler que souvent, les autres, quand ils te parlent à toi, ils te parlent d'eux. Donc, c'est hyper difficile, mais une fois que tu l'as compris, ça t'aide vraiment beaucoup à avancer. En fait, moi, mes proches, en fait, ça faisait quand même 5 ans que j'ai
saoulé. Oui, ok. Il y avait quand même des signes.
Enfin, en tout cas, chaque année, bon, c'était des CDD à l'époque, hein, mais chaque année, je changeais. En fait, un jour, quand j'ai dit à mes proches, écoute, et si je prenais un temps off, où là, je réfléchissais vraiment à moi, mes proches m'ont encouragée, quoi. Ils m'ont dit, peut-être que ça sera la solution. De toute façon, je savais que, quoi qu'il arrive, je pourrais toujours, au pire, retrouver un job alimentaire. Enfin, au pire, il y a des solutions, quoi. Tu vois, c'est... Mais en tout cas, si je ne m'accordais pas cette parenthèse, j'allais me nuire beaucoup. Et puis, ça allait aussi nuire à mon entourage, hein, parce que... ils étaient un peu fatigués quand même d'entendre que mon boulot, quoi. Donc on va dire que quand même mon entourage proche a bien réagi. Après, t'as toujours quand même des amis, on va dire plus ou moins éloignés, enfin plus on va dire éloignés, qui te connaissent un peu moins, ou des connaissances qui vont te dire, ah bah oui, t'es fou, quoi. Mais si, enfin moi, au fond de moi, mes tripes, elles me disaient, faut que tu partes.
Il n'y avait pas de doute. Et alors, cette rupture conventionnelle, est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu as passé le pas de...
Alors en fait, le jour où j'ai demandé ma rupture conventionnelle, c'était absolument pas
prévu.
Ah
oui, d'accord, ok. C'est encore mieux.
Et en fait, non, mais disons que ça a été un jour un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ce jour-là, où mes missions continuaient à sortir du cadre de ma fiche de poste et j'en avais juste assez. Et donc, on va dire que je ne l'ai même pas demandé d'une manière très délicate par rupture conventionnelle. Même j'ai été surprise en m'entendant la prononcer, quoi, en disant non, mais je demande une rupture conventionnelle. Alors, je lui ai dit, mais un peu voilà, comme ça, mais puissance 10.
Ah
quoi.
Oui.
J'ai un peu un caractère des fois, un petit peu de sport, mais bon. Mais ce jour-là, je crois que mes tripes, elles en pouvaient tellement plus. Enfin, j'en pouvais tellement plus, en fait, que j'ai dit. Je demande une rupture conventionnelle et en fait je m'étais préparée quand même à un non parce que j'étais quand même la seule salariée.
D'accord.
Donc à tous les auditeurs qui nous écoutent, surtout que vous soyez seul ou qu'on vous dise mais non c'est pas possible, si vos collègues vous disent c'est pas possible de négocier une rupture conventionnelle, je vous assure, tentez-le, quoi, parce que vraiment, moi, je savais, voilà, non, mais vraiment, moi, j'étais, voilà, je l'ai tenté en sachant que ça allait être certainement ouais. compliqué, et finalement, ils me l'ont accordé. En fait, on a juste discuté ensemble, après, calmement, où on a convenu que, en fait, on n'était pas gagnant, enfin, on était perdant-perdant si on continuait la collaboration, et que, en fait, je pense que c'est ça qu'il faut montrer à l'employeur, c'est que c'est gagnant-gagnant que moi je parte et que eux, ils prennent quelqu'un d'autre, parce que ils m'ont dit on n'a aucun intérêt à garder une personne qui est pas motivée, donc on accepte que tu partes, on accepte que ça se fasse dans les règles, donc voilà. Après, il y a aussi, si on n'arrive pas à négocier une rupture conventionnelle, il y a quand même, il y a éventuellement la possibilité de négocier peut-être, je ne sais pas, un 80%, un 60%, un 90%, ou de se dégager du temps dans son agenda pour réfléchir à son projet de reconversion. Et moi, j'ai une astuce pour se dégager du temps, c'est de chronométrer le temps qu'on passe sur le téléphone. Voilà, parce que c'est juste hallucinant et j'en parle dans mon livre. Moi, j'ai commencé à chronométrer le temps que j'y passais et il y a des fois j'étais jusqu'à 5 heures par jour sur le téléphone, quoi.
Ce qui est
donc
énorme.
Ce qui est juste énorme. Voilà, et peut-être qu'à la place de tous les soirs la série qu'on regarde ou le film qu'on regarde, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, c'est important de prendre du temps pour soi, mais peut-être que sur les 7 soirées où on regarde un film, on peut en choisir une ou deux ou trois, enfin après à voir, où on prend juste le temps de réfléchir. Donc j'ai un peu empiété sur ta question.
Non, mais c'est aussi intéressant de le dire, parce que je pense que c'est effectivement une... de gérer son temps. D'ailleurs, tu as même essayé, je ne sais pas si tu le fais toujours, la Miracle Morning, je ne sais pas.
Oui, ouais, le Miracle Morning, oui, je le fais toujours, la petite routine. Je l'ai adaptée à ma sauce, hein. Pour ceux qui savent pas, c'est donc une routine matinale, c'est le de prendre un temps pour soi, pour son développement personnel. Alors l'auteur, donc Al Elrod, propose de la lecture, de la méditation, de l'écriture, du sport, des affirmations et de la visualisation. Après, en fait, on choisit que ce qu'on veut. Ou on choisit pas non plus. Si vous faites pas de routine matinale, c'est pas un problème. Moi, je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est un moment qu'on prend seul avec nous-mêmes. Et moi, pour donner la mienne, c'est souvent de la méditation, de l'écriture.
Et tu fais ça le matin, voilà. Comme c'est...
Je fais ça le matin, ouais. Je fais ça le matin, mais si c'est vraiment impossible de le faire le matin, on le fait un peu quand on veut, quoi. Si pendant la pause du midi, on a envie, je sais pas, juste d'écouter un podcast, parce que ça peut être ça aussi. Chacun fait son truc, sa routine à lui. Je pense que ce qui est juste important, c'est de prendre un temps quand même pour soi, parce que surtout d'écrire, enfin vraiment, moi je conseille d'écrire parce qu'on extériorise tellement de choses, ça permet de clarifier les idées et c'est aussi que ça nous permet d'avancer, d'évoluer, de fixer nos objectifs, de savoir où on va. Et ce temps-là, pour moi, je le
justement, parlant d'écriture, on reviendra sur les peurs. Hein,
Oui.
Les auditeurs, suivez-nous bien. Accrochez-vous. Non, mais tu parles de d'un cahier d'inspiration. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Moi, j'aime bien justement savoir comment les gens arrivent à mettre un peu leur cerveau en place à travers un cahier ou leur façon de s'organiser. Comment, t'as toujours ce cahier d'inspiration avec toi ou...
Oui. Alors là, j'ai celui... Tu le vois à l'écran. Donc ça, c'était celui de l'année dernière. J'en ai un aussi de cette année. Et par exemple, moi, mon petit carnet d'inspiration, c'est des petites cartes postales qui, pour moi, sont hyper intéressantes. Enfin, inspirantes, on va dire. Pas intéressantes. Mais pour les auditeurs, moi, j'ai deux cartes postales. J'en ai une, c'est Croque la vie, et l'autre, c'est Les femmes de caractère vont partout. Et puis, j'ai des citations que j'aime bien. Et en fait, dedans, c'est, par exemple, mon petit carnet d'inspiration, c'est que j'ai écouté des podcasts et il y a des trucs qui m'ont inspirée. Donc, je les ai notées. J'ai des lectures qui m'ont inspirée, donc je les note. Par exemple, dans mon carnet, dans une de mes parties, j'écris mes objectifs. Voilà, qu'est-ce que je veux faire à court, moyen, long terme, comment je me vois dans 3, 5, 5, 10 ans. Moi, je trouve que c'est aussi important de savoir où on va. Où on va. Quand j'étais vraiment dans la période où je réfléchissais beaucoup, je notais mes idées. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi le cahier d'inspiration, c'est ça, chacun de le façonner et tu notes tes idées, tes réflexions, les trucs qui t'ont parlé, les échanges que tu as eu avec les gens, les références importantes, les cartes postales qui te font sourire. Il y a mille et une façons, enfin en tout cas, je pense, il y a mille et une façons de l'alimenter et je pense que c'est assez chouette d'avoir ce petit cahier parce que déjà il fait du bien. On peut aussi faire une liste de tout ce pourquoi on a de la gratitude aujourd'hui, de tout ce pourquoi on est reconnaissant. Et quand ça va pas, tu regardes ton petit passage, ta petite page où tu as écrit tes gratitudes et puis ça fait du bien. Donc en fait, c'est un petit cahier qui accompagne, qui nourrit tes réflexions un peu, tu vois, quand tu as une idée, etc. Alors pour moi, c'est pas la même chose que l'écriture sur un journal, parce que j'ai vraiment un cahier où là, par contre, c'est où j'écris tout ce qui me passe par la tête. C'est dans le livre « Libérez votre créativité » que Julia Cameron, elle conseille en fait d'écrire 3 pages tous les matins. Après, chacun écrit ce qu'il veut, mais ça fait un bien fou. Parce que tu te distancies de tes idées, tu t'aperçois, tu mets tes peurs par écrit. Enfin, moi, ça me fait énormément de bien de mettre mes peurs par écrit, de tout écrire sur le papier. Et puis, bon, ok, maintenant, tu prends du recul sur les choses. Donc, moi, c'est deux choses différentes. Mais en tout cas, ce petit carnet d'inspiration, moi, je le conseille parce que...
Ça t'a aidé, toi, dans ton...
Oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé surtout ça m'a aidé à un peu... si tu veux, un peu synthétiser où j'en étais dans mes idées, où j'en étais dans mon avancée, et puis aussi, mes moments de gratitude, par exemple, pour moi, c'est important, de savoir mes objectifs, de les... Enfin, voilà. Je trouve que ça aide, ça aide à avancer. Après, chacun...
Dans ton introspection, c'est sûr, effectivement, ça va être un bon outil, je pense. On s'en douterait pas, mais en fait, je pense que...
Pour moi, ça allait. Après, chacun...
Non, je pense que ça allait... Enfin, je pense que ça dépend peut-être des personnalités.
Oui, mais bien sûr. Il y a des gens qui ne sont pas du tout...
Écriture. Il y en a, ils ont besoin de l'avoir, de matérialiser. Mais je pense qu'il y a des choses quand même, quand c'est qu'ils sont en soi, qu'il faut réussir à ressortir. Et pour ça, il faut le voir, il faut le lire, il faut l'écrire. Bon, on va revenir sur les peurs.
Oui,
c'est pas grave. Justement, il y a beaucoup de créativité d'ailleurs. Il y a beaucoup d'auteurs que tu cites, on en reparlera. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir toute cette multitude de choses que tu écoutais,
D'ailleurs, je me permets, tout à l'heure, on parlait des étapes de la reconversion. Donc, quand je parlais de faire introspection, test et action, et tout ce ce travail d'aller creuser, en tout cas d'aller lire, d'aller se renseigner, pour moi, il fait quand même partie de l'introspection, test, quoi. Enfin, c'est... Tu vois, parce que c'est important, en fait, d'aller se renseigner, d'aller creuser les sujets qui nous intéressent, quoi. Et donc, toutes les lectures, que ce soit des lectures, des newsletters, des TED, j'adore les TEDx, des vidéos YouTube, des podcasts, y a plein de choses qui peuvent nous inspirer.
Et ça, c'est ce qu'on retrouve, effectivement, tout au long de ton livre, toutes ces choses que t'as été un peu grainée, voire... Mais on va revenir sur les peurs, parce que y a cette peur, donc on a parlé de cette rupture conventionnelle que tu as réussi à pouvoir avoir au final, alors que tu ne t'en doutais pas, donc toujours le mot « oser », au final... Il n'y a pas de regret à avoir. Et il y a quelque chose qui est assez qui sonne beaucoup dans ton livre également, c'est la peur du regard des autres. Je me rappelle d'une phrase que j'ai trouvée puissante, qui en parle bien. C'était « Le sujet de ma reconversion provoque chez certains de la peur, de la gêne, de la curiosité, voire de l'admiration. » Et c'est assez amusant de voir que dans le livre... quand tu décris toute cette quête, au fur et à mesure, au début, on sent vraiment que tu n'assumes pas, on dirait, d'être... peut-être au tout début, vraiment, dans les premières phases, il y avait peut-être une émulation, mais on sent que quand tu es à la recherche de toi-même, bah, en fait, t'as pas envie d'en parler, t'as pas envie de partager. Ça se ressent vraiment, tu t'es pas bien, en fait, avec ça. Et bah voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça ?
Oui, je pense que la peur du regard des autres, de toute façon, c'est pas spécifique à la reconversion. Hein. Je pense qu'on est...
on est dans une société comme
ouais,
ça.
Ouais, voilà, il y a plein de situations. Enfin, je pense que c'est une des plus grosses peurs, enfin, en tout cas... et en fait, c'est vrai que donc, au début, j'étais hyper contente de me reconvertir, donc je criais sur tous les toits. Et puis quand les gens ont commencé à me dire « Oh, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Mais comment tu vas faire financièrement ? Mais t'es pas trop jeune ?»
Toute leur peur.
Là, ça m'a un peu coupé dans mon élan. Et donc, c'est vrai que après, l'avoir crié sur tous les toits, j'ai décidé d'esquiver la question. Mais vraiment, parce que, en fait, comme tu le dis, j'avais pas envie d'en parler. Parce que quand tu es dans une période d'introspection, enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, c'est que quand tu es dans une période d'introspection où tu ne sais pas toi-même ce que tu veux faire, bah, c'est compliqué de l'expliquer aux autres, quoi. Et t'as pas envie d'en parler. T'as des moments où t'as juste pas envie. Et je pense que c'est normal et qu'il faut le respecter, quoi. Et en tout cas, il faut respecter ça. Au début, j'avais un peu du mal à respecter ça. Alors, j'étais un peu vague. Et puis, j'ai essayé d'éviter la question. Mais ça me mettait vraiment mal. Et puis, petit à petit, en cheminant... Et puis, via aussi certaines expériences que j'ai faites, j'ai aussi compris que, donc comme je te disais tout à l'heure, les autres nous parlent de leur peur, quoi. C'est-à-dire que si eux, ils étaient dans une situation où ils avaient négocié une rupture conventionnelle et ils ne savaient pas du tout où aller, ils avaient super peur. Donc, c'était leur peur à eux dont ils me parlaient. C'était pas... voilà. Donc, c'est qu'est-ce que toi, tu décides de faire de ce que les autres te disent, quoi. C'est que finalement, les propos des autres leur appartiennent. Et c'est à toi de... Si ça évoque quelque chose en toi, c'est que bon, bah, ça fait sortir peut-être une blessure ou ça fait écho à quelque chose. Mais on est toujours libre d'accepter ou non les dires des autres, quoi. Je veux dire, moi, quand les gens me disaient que t'es pas trop jeune, ben, en fait, je leur disais, ben non, hein, je suis pas trop jeune. Ça fait 5 ans que...
C'est ce qu'on te disait, étais trop jeune.
Oui, on me disait que c'était trop jeune. Donc,
Est-ce que c'est ce qui ressortait le plus souvent
Alors, c'était plus le qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas rebondir financièrement. C'était un peu plus ça. Mais le trop jeune, je l'ai quand même eu plusieurs fois. Parce que c'est vrai qu'à 28 ans... Ça faisait que 5 ans que j'avais commencé ma vie pro, mais voilà, comme on disait, ça faisait quand même 5 fois que la situation elle se reproduisait. Donc en fait, au fur et à mesure que j'ai compris que déjà c'était la peur des autres, que en plus finalement j'avais aucun compte à leur rendre, hein, parce que c'est vrai, quoi. Je veux dire, on se crée des exigences. Si tu dis aux autres, écoute, en fait, là, je suis en période, je réfléchis, écoute, voilà, on en reparle, il n'y a pas mort d'homme, on doit rien aux autres.
Ouais. Et ça, c'est ce que tu as appris au fur et à mesure à...
Au début, c'est vrai que, bon, j'avais du mal, puis bon, en avançant, déjà, j'ai compris que je devais rien à personne, hein, que finalement, les seules choses... Enfin, j'ai aucun compte à rendre à personne, la seule personne à qui j'ai des comptes à rendre, c'est moi. Donc finalement, en avançant, en me faisant aussi accompagner, enfin, en faisant plein de trucs un petit peu perchés aussi, qui m'ont aidé, après c'était un choix perso, j'ai compris que les peurs, c'était celles des autres, enfin, en tout cas, que voilà. Et puis j'ai adopté une nouvelle phrase qui était « je prends le temps nécessaire pour trouver ma voie, je n'ai pas de doute, je vais trouver ce qu'il me faut, je suis sur mon chemin, quoi ».
C'est quelque chose que tu disais, quoi.
Ouais, et en fait, finalement, bon, bah, les gens, après, il y en a qui creusaient, hein, qui essayaient, puis qui essayaient pas trop, finalement, parce qu'ils voyaient que j'étais profondément, que je croyais profondément ce que je disais, et j'avançais, quoi. Et je pense que, de toute façon, si on s'arrête au regard des autres, on fait jamais rien, et que, c'est de notre vie dont il s'agit. Et j'en reviens à ça, quoi. C'est qu'est-ce qu'on veut pas regretter. finalement à la fin de sa vie. Et si on se dit, purée, si c'était le regard des autres, si c'est le regard des autres qui m'a empêchée de faire, d'oser faire mon rêve, de réaliser mon rêve, bah, c'est un peu dommage, quoi. Donc oui, de toute façon, on peut pas empêcher les autres de penser. Comme toi, moi, on pense. Donc, bah, y a un moment, il faut passer outre. Hein. Il faut passer outre, se rappeler que ce sont les peurs des autres, voir aussi certaines fois des jalousies, et puis se sentir libre de parler, et puis après adopter peu à peu un discours où on dit que non, mais c'est bon, t'inquiète pas pour moi, moi je sais que tout va bien, ça va quoi.
Et justement, dans le discours que t'as adopté, tu dis aussi qu'il y a l'importance du vocabulaire.
Oui.
Avec le mot jusqu'ici.
Ah oui.
Et donc tu dis que ça t'a beaucoup aidé d'utiliser le mot jusqu'ici.
Oui.
Je n'ai pas encore trouvé ma voix.
Oui.
Jusqu'ici, j'ai du mal à me lever le matin. Mais du coup, enfin, tu disais que voilà, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps en fait. C'est voilà, c'est actuellement.
Oui, et puis c'est aussi le message que t'envoies à ton cerveau. L'importance du vocabulaire. Enfin, le choix des mots est quand même assez important. Je veux dire, si tu entretiens toute la journée des mots assez négatifs ou même des pensées négatives, enfin, moi, je suis persuadée que tes pensées créent ta réalité, mais ça t'aide pas. Donc, au lieu de dire « Ah non, mais j'ai pas trouvé ma voie » ou « J'y arriverai pas », non, c'est bah, « Jusqu'ici, j'ai pas trouvé ma voie. » Jusqu'ici, quoi. Moi, c'est vraiment un mot qui m'a aidée et qui continue m'aider parce que je continue à l'employer. Et je pense que c'est important d'être attentif à ce qu'on se dit. Et voilà.
Et aujourd'hui, le regard des autres, c'est quoi sur toi, du coup
Aujourd'hui, écoute, je me dis... Enfin, oui, des fois, oui, j'en ai toujours un peu peur du regard des autres. Notamment, enfin, là, j'ai fait aussi la promo du livre. Donc là, j'en parle à tout le monde. Et puis...
T'es fière aussi de ce que t'as fait, je pense. Du coup, d'avoir sorti un livre, il y a une sorte de fierté, non?
Bah oui, parce que quand même, il y a un manuscrit sur 1000 qui est publié, donc je t'avoue que oui, je suis quand même contente. Tu vois, je suis quand même contente, et oui, je pensais pas du tout y arriver, donc je suis hyper, hyper heureuse. Moi, c'est surtout, j'ai envie de transmettre des messages, en tout cas, de dire aux autres d'oser partir à leur rencontre et de se chercher, et s'ils sont pas bien aujourd'hui où ils sont, bah, oser passer à l'action. Et donc aujourd'hui, bah, écoute, oui, des fois j'ai un peu peur, oui, de toute façon, c'est illusoire de penser qu'on va vivre sans peur, hein.
Non,
ouais. L'être humain, il est fait comme ça, hein. Notre cerveau, il est fait comme ça, on aura toujours des peurs. Par contre, ce qui est juste intéressant de prendre conscience, c'est qu'il y a 95% de nos peurs qui sont imaginaires, en fait, hein. Donc...
voilà, ça laisse une petite marge.
Ouais, voilà, ça laisse une petite marge. J'ai décidé en tout cas que je ne m'arrêtais pas au regard des autres. C'est-à-dire que pour mes projets futurs, je les continue et peu importe ce qu'on me dit, moi j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire et de pas regretter. Donc, des fois ça m'arrête un petit peu le regard des autres, puis après je me dis non, attends, je m'en fous quoi, j'ai aucun compte à leur rendre quoi, j'y vais. Voilà.
Et du coup, depuis ce livre, ton histoire de reconversion, est-ce qu'elle a pris fin ou est-ce que c'est toujours un chemin au final qui est toujours ouvert au final, puisque le champ des possibles.
Je pense qu'en fait, de toute façon, j'ai mis les pieds sur un nouveau chemin de vie en tout cas. Et que ce chemin, enfin, en tout cas, il continue tous les jours, quoi. Donc, de toute façon, tu avances tous les jours. Aujourd'hui, bah, j'ai vraiment réalisé, de toute façon, l'écriture, pour moi, c'était un pilier de ma vie, parce que bah, ça me nourrit. Donc, j'ai d'autres projets dans l'écriture. Ouais. Moi, j'ai réalisé, déjà par l'écriture du livre, que l'écriture, c'était un pilier, que l'écriture me nourrissait. Donc, j'ai d'autres projets d'écriture. J'ai aussi envie d'exploiter ma parole parce que tout à l'heure, je te disais que dans mon introspection, il y avait quand même la parole. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé la façon, mais j'ai confiance. Voilà.
Il y a toujours ce pan aussi de l'écologie, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses par rapport au minimalisme, au zéro déchet. Moi, c'est quelque chose qui me parle énormément.
L'écologie,
par exemple,
ça reste toujours un projet. Enfin, en tout cas, je ne sais pas encore comment... Peut-être que ça prendra une forme que je ne connais pas encore. En gros, si tu veux, c'est encore, comme si j'avais plusieurs pièces du puzzle Et que j'avançais. Donc là, aujourd'hui, je me suis lancée en tant que rédactrice freelance pour payer mes factures. Mais pour moi, c'est absolument pas la finalité de ma reconversion. C'est temporaire. Et tu le sais, ça. Oui, je le sais. Et voilà, c'est pas un problème. Et donc, j'avance. J'avance en sachant qu'il y a ces pièces du puzzle et que les choses vont se mettre en place au bon moment. Et là, je prends aussi le temps de faire connaître le livre, c'est important. Je prends aussi le temps pour mes projets d'écriture parce que j'ai aussi envie d'apporter de nouvelles choses. Donc voilà.
J'ai hâte de suivre ça, un peu plus près dans le futur. C'est intéressant. Je pense qu'on va bientôt finir le podcast, mais avant ça, je sais que tu délivres pas mal de conseils à la fin de ton livre. Il faut que je les relise un peu plus attentivement. Mais si tu en avais, bon, c'est un peu dur de classifier les choses parce que ça dépend des personnalités des personnes. Mais si tu en avais trois, mais si tu en avais certains à recommander à nos auditeurs, auditrices qui songeraient également à se reconvertir, surtout qu'aujourd'hui, on en a parlé en off, mais que cette situation actuelle d'un lockdown, confinement saison 2, enfin voilà, qu'un confinement aide beaucoup à faire des introspections chez soi sans s'en rendre compte. Du coup, je pense que la question de la reconversion, c'est une grande question. Oui. Peut-être des milléniaux, mais peut-être pas. Peut-être de notre société, peut-être. En mal-être. Voilà. Du coup, je pense que si tu avais des petits conseils à donner à ces personnes qui hésiteraient, qui auraient peur, ou qui seraient dans cette phase-là, un peu clé. Qu'est-ce que tu aimerais prodiguer ?
Je pense que, j'ai fait le choix de partir sans savoir ce que j'allais faire, donc on n'est clairement pas obligé de faire ça. Voilà, enfin, je le précise. Non, mais voilà, je le précise. Voilà, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Et souvent, je connais beaucoup de gens qui ont monté des side projects en parallèle de leur emploi actuel pour tester leur projet. Qu'ils soient rentables et puis ensuite quitter leur boulot. Hein. Donc, il y a plein de solutions. Alors, je pense, et ça fait écho, donc si je devais, donc les trois conseils, donc c'est un peu dur de dire trois. Je pense que ce qui est hyper important, c'est de savoir s'entourer. On parlait tout à l'heure du regard des autres. Et si on est entouré de personnes qui ne croient pas à notre projet, ne croient pas à notre conversion, qui ne sont pas du tout dans cet esprit-là, c'est quand même compliqué. Donc là, je ne parle pas de l'entourage proche, famille. Bon, eux, qu'ils adhèrent ou pas, ça reste ta famille. Donc après, tu fais le choix de les voir peut-être moins, enfin voilà. Mais il y a aussi dans ton entourage, tu peux aussi faire le choix de t'éloigner des gens qui te plombent un peu, quoi. Parce que déjà que ce n'est pas facile, tu n'as pas besoin d'être en plus plombé par, par d'autres personnes. Donc... comment on crée un nouvel entourage, que ce soit avec le Covid, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que j'allais dire de se rendre à des événements. Bon, là, on va dire que là, c'est un peu plus compliqué, donc c'est ce que j'ai fait. Mais il y a des événements qui sont organisés virtuellement, des ateliers virtuels, il y a des groupes Facebook de personnes qui se reconvertissent, enfin, il y a des choses en tout cas, et on peut vraiment créer de nouvelles relations comme ça. Et puis, sur LinkedIn, on repère quelqu'un, un entrepreneur dans la couture. Bon, je reprends cet exemple-là parce que j'ai une copine qui fait ça. Et tu intègres des groupes de couture. Sur LinkedIn, tu tombes sur quelqu'un qui a lancé son projet en couture. Enfin, il y a des façons de rencontrer des personnes. Je pense que vraiment, l'entourage, c'est une clé. Ensuite... l'introspection, quand même, pour moi, c'est une clé. Enfin, vraiment, je pense qu'on ne peut pas commencer une reconversion, d'autant plus si on ne sait absolument pas ce qu'on veut faire, sans prendre le temps d'aller creuser en soi, d'aller se connaître un petit peu mieux, quoi. Donc, pour moi, ça, c'est une deuxième clé. Après, alors, il faut que je fasse des choix.
Tu peux en mettre cinq, hein, si tu veux, mais...
Ouais, je dirais qu'il y a quand même un truc que je trouve important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'aller s'inspirer via des podcasts, des TEDx, des newsletters, des vidéos et tout. Pour moi, c'est ce que j'appelle dans mon livre, j'en parle, c'est le climat de reconversion. C'est, et ton, car, okay, ton cahier d'inspiration, le cahier dont je parlais tout à l'heure, c'est là-dedans que tu vas écrire un petit peu tout ce qui t'inspire. Et je pense que c'est important de baigner dans un climat qui t'inspire et qui te motive à avancer, quoi. Si t'es abonné à des newsletters de je sais pas, de personnes dans la couture par exemple, ou t'es abonné en gros à des newsletters de personnes qui font un projet qui t'inspire et que tu as envie d'adhérer, ça ne peut que t'aider à avancer, parce qu'en fait ça sera ta nouvelle norme entre guillemets, ta nouvelle réalité en fait, petit à petit, ouais. Tu vas transformer ta réalité, et tu verras aussi que en t'abonnant à de nouvelles newsletters, découvrant de nouveaux podcasts, peut-être que tu vas découvrir un groupe Facebook que tu connaissais pas, et là tu vas rencontrer quelqu'un, ouais. En fait c'est comme ça que ça se passe, hein. À partir du moment où tu fais le premier pas, la vie, elle t'apporte les opportunités et les rencontres, quoi. Je veux dire, moi, j'avais décidé de me former dans l'écologie. En deux rencontres, j'ai trouvé ma formation, quoi. Donc, tu vois, voilà. Ouais. Donc, ça, je dis pas, voilà. je dis pas plus. Alors, et pour moi, il y a quand même... Donc là, j'ai donné 3 conseils. Donc, j'en donnais juste 2 de plus, bonus. Il y a quand même... Alors, on n'a pas trop parlé du marathon. C'était pas le sujet du podcast, mais pour moi, il y a quand même un truc important, c'est de savoir faire autre chose que sa reconversion. Voilà, parce que la reconversion, on est toujours dans sa tête, on est toujours en train de réfléchir, notre cerveau bouillonne tout le temps. C'est important de prendre du temps, je pense, pour le mettre sur off. Et moi, c'est vrai que la course à pied, ça avait ça de magique, que déjà, quand j'allais m'habiller au club, j'étais plus une personne qui me reconvertissait, j'étais juste une personne qui allait courir. Je savais absolument pas ce que les autres faisaient comme métier, et ça, je trouvais ça juste chouette, parce que on était tous en tenue de sport, et c'était chouette. Mais pas d'étiquette. Donc pour moi, c'est hyper important de prendre ce temps pour soi. Enfin, ce temps en dehors. Et puis, je dirais aussi que, en fait, oser, quoi. Enfin, pour moi, vraiment, le dernier conseil, c'est d'oser. C'est oser écouter sa petite voix qui vous murmure que vous n'êtes pas à votre place. Oser écouter cette petite voix qui vous dit « Ah, t'as vu ce projet en cuisine, tu sais que t'aimes ça, essaye, vas-y !» Tu vois, c'est écouter cette petite voix qui dit « Mais vas-y, passe à l'action, poste ta première vidéo YouTube, ose !» Tu vois, voilà.
c'est y aller, quoi. Passer la première.
Parce qu'après, la vie, elle t'aide à faire le reste. Vraiment, voilà.
Ouais. merci Anna pour tous ces conseils. Je te souhaite plein de bon courage pour tes projets futurs. De toute façon, on va suivre ça de près dans tous les cas. Et puis pour tous ceux qui voudraient lire ton livre, dites non à une voie toute tracée. De toute façon, toutes les informations seront dans la barre d'informations. Et puis voilà, maintenant je te remercie encore et je te dis...
Merci à toi, et puis si les auditeurs veulent me contacter sur Instagram, Facebook, je suis assez réactive.
Toujours.
Enfin, j'essaye, donc il n'y a pas de souci, essayez.
Je confirme la réactivité.
Voilà, donc merci aussi.
Merci Anna.
Au revoir.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, dont Twitter, @ledéclicpodcast, et Instagram, @le.déclic.podcast, et à partager le podcast autour de vous. Prenez soin de vous, et à bientôt pour un prochain rendez-vous.